Chapitre 13. Une autre mère et une autre fille. Dans une pièce noire et malpropre, une vieille femme noire et malpropre aussi était assise. Blottie près d'un maigre feu, elle écoutait mugir le vent et tomber la pluie, plus occupée pourtant de l'un que de l'autre. Toujours dans la même attitude, elle ne se dérangeait que lorsque des gouttes de pluie tombaient sur la cendre chaude. Alors elle levait la tête et semblait prêter l'oreille au bruit de l'ouragan. Puis elle laissait retomber sa tête, qui se penchait toujours, toujours de plus en plus, à mesure que ses pensées l'absorbaient davantage. Quand elle était dans cet état de rêverie, l'orage n'arrivait plus à son oreille que comme le monotone bruissement de la mer qui se brise sur le rivage. Il n'y avait d'autre clarté dans la chambre que celle que jetait la flamme du foyer. Brillant de temps à autre, comme l'œil d'une bête fauve à moitié endormie, elle éclairait une foule d'objets qui se seraient bien passés de cette illumination. Ici des guenilles, là des os, plus loin un mauvais grabat, deux ou trois chaises, ou plutôt deux ou trois escabeaux boiteux, une muraille enfumée, un plafond plutôt noir encore, voilà ce que cette flamme vacillante éclairait par intervalles. La vieille, dont la silhouette gigantesque se dessinait sur la muraille et sur le plafond, était penchée sur les briques mal jointes qui remplaçaient une grille absente. On eût dit qu'elle était là à attendre, devant l'autel de quelque sorcière, une réponse favorable. Si le mouvement de ses mâchoires et de son menton n'eût été plus vif que le va-et-vient de la flamme, on aurait attribué à une illusion d'optique ce mouvement d'un visage aussi immobile d'ailleurs que la personne même. Si Florence était entrée dans cette chambre et qu'elle eût jeté un seul coup d'œil sur cette femme penchée devant le feu, elle n'eût pas hésité à reconnaître la bonne Madame Brown, cette terrible vieille qui avait laissé dans ses souvenirs d'enfant une silhouette aussi grotesque et aussi fantastique que celle qu'elle eût vue projetée alors sur le mur. Mais Florence n'y était pas pour la voir, et la bonne Madame Brown restait là sans témoin, les yeux fixés sur son feu. Comme la pluie tombait plus fort et formait un petit ruisseau le long de la cheminée, la bonne Madame Brown releva la tête avec impatience pour mieux écouter. Mais cette fois elle ne la baissa plus, car une main s'était posée sur le loquet de la porte et elle entendit un bruit de pas dans la chambre. « Qui est là ? » dit-elle, en regardant par-dessus son épaule. « Quelqu'un qui vous apporte des nouvelles, » répondit une voix de femme. « Des nouvelles ? D'où ? De bien loin. »« D'au-delà des mers ? » s'écria la vieille femme en se levant d'un bond. « Oui, d'au-delà des mers. » La vieille femme attisa vivement son feu et s'approcha de l'étrangère. Celle-ci était entrée, avait fermé la porte et se tenait droite et immobile au milieu de la chambre. La vieille posa sa main sur le manteau de l'étrangère, traversée par la pluie, et lui tourna le visage vers la flamme du foyer sans qu'elle fît la moindre résistance. Sans doute, ce n'était pas la personne qu'elle s'était attendue à voir, car elle laissa retomber le manteau et, dans son désappointement, elle poussa un cri de plainte et de douleur. « Qu'est-ce que vous avez ? » demanda l'autre. « Oh ! » s'écria la vieille en relevant la tête avec un hurlement terrible. « Qu'est-ce que vous avez ? » demanda encore l'étrangère. « Ce n'est pas ma fille, » s'écria la vieille en levant ses bras et joignant ses mains au-dessus de sa tête. « Où est mon Alice ? Où est ma belle Alice ? Ils me l'ont tuée. » « Non, ils ne l'ont pas encore tuée. Si votre nom est Marwood, » dit l'étrangère. « Auriez-vous vu ma fille ? » s'écria la vieille. « M'a-t-elle écrit ?»« Elle a dit que vous ne saviez pas lire, » reprit l'autre. « Non, c'est vrai, » cria la vieille en se tordant les mains. « N'avez-vous pas de lumière ici ? » dit l'inconnu en promenant ses regards tout autour de la chambre. La vieille femme marmotta quelques paroles sur sa belle Alice, et tout en mâchonnant et branlant la tête, elle tira d'une armoire une chandelle, l'approcha du feu d'une main tremblante, et après l'avoir allumée avec peine, elle la posa sur la table. La mèche dégoûtante brûla faiblement d'abord. Noyée dans son suif, et quand les yeux rouges de la vieille et sa vue affaiblie purent distinguer quelque chose, elle aperçut l'étrangère assise, les bras croisés, les yeux tournés vers elle, et le mouchoir qui avait entouré sa tête placé sur la table. « Ma fille Alice m'a envoyé de ses nouvelles verbalement, alors, » marmotta la vieille, après avoir attendu quelques instants. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?« Regardez, répondit l'étrangère. La vieille répéta ce mot d'un air de doute et d'effroi, mit sa main devant ses yeux pour mieux voir l'étrangère, puis promena ses yeux tout autour de la chambre pour les arrêter de nouveau sur elle. Alice a dit « Regardez encore, mère !» reprit l'étrangère, fixant ses yeux sur elle. La vieille regarda encore tout autour de la chambre, revint à l'étrangère et chercha de nouveau autour d'elle. Puis, se levant d'un coup, elle saisit la chandelle, la plaça devant le visage de l'inconnu, poussa un grand cri et, jetant la lumière, elle tomba dans ses bras. « C'est ma fille, c'est mon Alice, c'est ma jolie fille. Elle vit, elle est revenue !» cria la vieille en se balançant sur la poitrine qui répondait froidement à ses embrassements. « C'est ma fille, c'est mon Alice, c'est ma jolie fille. Elle vit, elle est revenue » cria-t-elle de nouveau. Et elle se prosternait devant elle, serrait ses genoux, y reposait sa tête, se balançant encore avec toute l'énergie frénétique que permettaient ses forces affaiblies. « Oui, mère, » répondit Alice, qui se baissa un moment pour l'embrasser, mais en cherchant toutefois à se délivrer de son étreinte. « Me voici enfin. Laissez-moi, mère, laissez-moi. Relevez-vous et asseyez-vous. À quoi sert tout cela ? Elle revient plus dure pour moi qu'elle n'était partie, » s'écria la mère en levant les yeux vers elle, mais sans quitter ses genoux. « Elle ne se soucie guère de moi, après tant d'années d'absence et la misérable vie que j'ai menée. « Eh bien, mère, » dit Alice, en secouant sa robe toute déguenillée, pour faire lâcher prise à la vieille, « je n'étais pas non plus sur des roses. J'ai eu mes mauvaises années comme vous les vôtres. Levez-vous, levez-vous. » La mère se leva, sanglota, se tordit les mains et se tint à quelques pas d'elle sans la quitter des yeux. Puis elle reprit la chandelle, tourna autour d'elle et l'examina des pieds à la tête en faisant entendre tout le temps un sourd gémissement. Elle replaça ensuite la chandelle sur la table, reprit son siège, se mit à frapper dans ses mains comme pour battre la mesure de quelque air monotone et se balançant de droite et de gauche, elle continua à gémir et à se lamenter. Alice se leva, ôta son manteau tout mouillé et le jeta dans un coin. Cela fait, elle s'assit à la même place et les bras croisés, les yeux fixés sur le feu, elle écouta en silence et d'un air de mépris les plaintes inarticulées de sa vieille mère. « Aviez-vous espéré me voir revenir aussi jeune que j'étais partie, mère » dit-elle enfin en tournant les yeux vers la vieille femme. « Aviez-vous espéré qu'une vie dans les pays lointains, qu'une vie comme la mienne, était faite pour embellir les gens ? On le croirait à vous entendre. »« Ce n'est point cela, » répondit la mère. « Elle sait bien que ce n'est point cela. »« Qu'est-ce donc, alors ? Tenez, mère, pas tant de grimaces, ou je sortirai plus vite que je ne suis entrée. » « L'entendez-vous ? » s'écria la mère. « Après tant d'années de séparation, elle me menace déjà de me quitter, quand elle ne fait que de revenir. » « Je vous répète, mère, pour la seconde fois, que j'ai eu mes mauvaises années, comme vous avez eu les vôtres, » dit Alice. « Je suis, dites-vous, revenu plus dur. »« Sans doute, je suis revenu plus dur. Pouviez-vous espérer autre chose ?»« Plus dur pour moi, plus dur pour sa tendre mère, » s'écria la vieille femme. « Qu'est-ce donc qui a commencé à m'endurcir, si ce n'est ma tendre mère ?» répondit-elle, les bras croisés, les sourcils froncés, et les lèvres serrées, comme si elle voulait étouffer au passage tout sentiment plus tendre qui voudrait sortir de son cœur. Écoutez, mère, un mot ou deux. Si nous nous comprenons maintenant, il n'y aura plus de querelle entre nous, peut-être. Je suis partie, jeune fille, je reviens femme faite. Quand je suis partie, j'étais indocile, oublieuse de tous mes devoirs. Je ne suis pas revenue meilleure, je vous le jure. Mais vous, avez-vous été ce que vous deviez être pour moi ? Moi, s'écria la vieille, moi, pour ma fille, est-ce qu'une mère doit quelque chose à sa fille ?
Cela ne paraît guère naturel, n'est-ce pas ? Répondit la fille, dont le beau visage sévère, froid et dur, se tourna d'un air indifférent de son côté. Mais j'y ai songé assez pendant le cours de mes années solitaires pour m'y être habitué. J'ai entendu parler du devoir avant et après. Mais il s'agissait toujours de ce que je devais aux autres. Je me suis demandé de temps en temps, par manière de distraction, si l'on n'avait pas aussi quelques devoirs à remplir envers moi. » Sa mère s'assit toujours grimaçant, toujours mâchonnant et branlant la tête. Était-ce de colère, de regret? Repoussait-elle cette accusation? Ou bien était-ce seulement un effet des infirmités de l'âge? Qui peut le dire? Il y avait une fois une enfant appelée Alice Marwood, dit la fille en riant et se regardant elle-même d'un air d'amère dérision. Elle était née dans la pauvreté et dans l'abandon, et elle grandit dans la pauvreté et dans l'abandon. Personne ne lui a rien appris, personne ne lui a montré la bonne route, personne ne s'est inquiété d'elle. Personne, répéta la mère en se montrant elle-même du doigt à sa fille et se frappant la poitrine. On ne s'inquiétait d'elle, répondit la fille, que pour la battre, la faire jeûner ou la tourmenter. Elle aurait pu mieux tourner sans cela. Elle vivait dans des trous comme celui-ci, elle courait les rues avec un tas de petites malheureuses comme elle, et cependant elle sortit jolie d'une pareille enfance. Tant pis pour elle. Plût à Dieu qu'elle eût été huée et bafouée comme un monstre de laideur. « Continuez, continuez !» s'écria la mère. « Je continue. Il y avait donc une fille appelée Alice Marwood. Elle était belle. On s'occupa trop tard de lui apprendre quelque chose. Quand on s'en occupa, ce fut pour lui apprendre le mal. Oh, alors on ne lui donna que trop de soins. On ne la suivit que de trop près. On ne l'encouragea que trop dans cette mauvaise voie. On ne sut que trop bien guider ses pas. Comme vous l'aimiez dans ce temps-là. Et puis, ça vous rapportait gros. Ce qui est arrivé à cette fille arrive tous les ans à des milliers d'autres. Ce n'était qu'une fille perdue de plus. Comme si elle n'était pas née pour ça. Après tant d'années, dit une voix plaintive la vieille, voilà comme elle commence. Elle aura bientôt fini, dit Alice. Il y eut donc une coupable appelée Alice Marwood. C'était une jeune fille encore, mais seule et abandonnée. Elle fut jugée et condamnée. Ah, Dieu, comme messieurs les juges parlaient de son crime. Et le président, comme il fut sévère, quand il lui parla de ses devoirs, auxquels elle avait failli, des dons de la nature qu'elle avait employés pour le mal, comme s'il ne savait pas mieux que personne que ces dons n'avaient été que malédiction pour elle. Quel beau sermon il lui fit, sur le bras plein de force de la loi, bras bien fort, en vérité, pour la sauver, du temps qu'elle n'était qu'une pauvre petite innocente sans secours et sans appui. Comme tout cela était solennel et religieux. J'y ai souvent pensé depuis. Elle croisa ses bras plus étroitement sur sa poitrine et fit entendre un rire auprès duquel le hurlement de la vieille femme était presque harmonieux. Alice Marwood fut donc déportée, mère, poursuivait-elle. On l'a envoyée apprendre son devoir dans un endroit où, au lieu du devoir, on apprend que le mal, le déshonneur et l'infamie. Et Alice Marwood est revenue femme. Elle est revenue ce qu'elle devait être après un tel exil. Quand le temps sera venu, les choses se passeront encore avec plus de solennité. Les sermons seront encore plus beaux, le bras de la loi sera encore plus fort, et il ne sera plus question d'Alice Marwood. Mais, après elle, les juges n'ont que faire de craindre de n'avoir plus de besogne. Il y a encore un tas de petits vagabonds, filles ou garçons, qui grandissent dans les rues et qui leur donneront assez d'occupation pour faire leur fortune. » La vieille femme appuya ses coudes sur la table, cacha sa figure dans ses mains et fit semblant d'avoir un profond désespoir. Après ça, qui sait, c'était peut-être vrai. « Allons, fini, mère, » dit la fille en secouant la tête comme pour changer le sujet. « J'en ai dit assez. » Ne parlons plus l'une et l'autre de devoirs, quoi que nous fassions. Votre enfance a été ce qu'a été la mienne, sans doute. Tant pis pour nous deux. Je n'ai ni à vous blâmer, ni à me défendre. À quoi bon? Tout cela est passé depuis longtemps. Mais je suis femme maintenant, je ne suis plus une enfant. Et nous n'avons besoin ni l'une ni l'autre de dresser le procès-verbal de notre vie comme messieurs les juges. Nous savons bien ce qui en est, n'est-ce pas? Toute perdue et dégradée qu'elle était, elle avait conservé une certaine beauté qui, même sous le jour le moins favorable, ne pouvait échapper à l'œil le plus attentif. Lorsqu'elle fut replongée dans le silence et que sa figure, qu'une émotion poignante avait agitée, se fut calmée, son regard sombre changea l'expression. Ses yeux, tout à l'heure étincelants de colère, semblaient adoucis par quelque triste pensée. Dans ses traits, altérés par la misère et la fatigue, resplendissait comme un rayon de l'ange déchu. Sa mère la considéra en silence pendant quelques instants, puis, s'enhardissant, elle glissa tout doucement sa main décharnée du côté de sa fille. Ne trouvant pas de résistance, elle osa l'approcher de sa figure, puis la passa sur ses beaux cheveux. Alice avait sans doute le sentiment que sa mère, en ce moment, était sincère, aussi ne la repoussa-t-elle pas. Insensiblement, elle renoua les tresses de sa fille, lui retira sa chaussure humide, si l'on peut appeler ça une chaussure, lui mit sur les épaules un vêtement sec, tourna et retourna timidement autour d'elle, se parlant tout bas à elle-même, et se réjouissant de reconnaître enfin ses traits, son expression d'autrefois. « Vous êtes bien pauvre, ma mère, je le vois, » dit Alice en promenant ses regards autour de la chambre, après être restée assise pendant quelque temps. « Bien pauvre, ma chérie, » répliqua la vieille. Elle admirait sa fille, et elle en avait peur. Ce sentiment d'admiration, elle l'avait éprouvé pour la première fois, le jour où elle avait vu quelque chose de beau sortir vainqueur de sa lutte avec la misère. Quant à la crainte qu'elle ressentait, elle était due peut-être au langage qu'elle venait d'entendre. Quoi qu'il en soit, elle était devant son enfant dans une attitude soumise et respectueuse. Elle courbait la tête et semblait prier humblement sa fille de lui épargner d'autres reproches. « Comment avez-vous vécu ? En mendiant, ma chérie. Et aussi en volant, mère ? Quelquefois, Alice, mais de petites choses. Je suis vieille et timide. Je prenais de temps en temps des riens à des enfants que je rencontrais, mais bien rarement. J'ai fait quelques tournées dans la campagne, ma chérie, et je sais bien ce que je sais. » « J'ai guetté. » « Guetté ?» répliqua sa fille, en fixant son regard sur elle. « J'ai suivi à la piste une famille, » dit la vieille d'un ton de plus en plus humble. « Quelle famille ?»« Chut, chérie, ne vous fâchez pas contre moi. C'est pour vous que je l'ai fait, pour ma pauvre fille qui était bien loin au-delà des mers. » Elle tendit une main suppliante vers sa fille, et la ramenant à elle, la porta à ses lèvres. « Il y a bien des années, ma chérie, » poursuivit-elle en regardant d'un air craintif le visage sévère de sa fille, « j'ai rencontré son enfant par hasard. »« L'enfant de qui ?»« Ce n'est pas le sien, chère Alice. Ne me regardez pas ainsi, ce n'est pas le sien. Comment voulez-vous que ce soit le sien ? Vous savez bien qu'il n'en a pas. » « L'enfant de qui, alors ? » reprit la fille. « Vous m'avez dit son enfant. »« Chut, Alice, vous m'effrayez, ma petite. C'est celui de M. Dombey. De M. Dombey seulement. Depuis, ma chère, je les ai revus souvent. Je l'ai même vu aussi, lui. » En prononçant ce dernier mot, la vieille se baissa et recula soudain, comme si elle craignait que sa fille ne la frappât. Mais sa fille, qui avait les yeux fixés sur elle, et qui semblait en effet en proie à la plus violente colère, demeura immobile. Seulement elle serrait fortement ses deux bras entrelacés sur sa poitrine, comme pour les empêcher de se porter à des voix de fait sur elle-même ou sur quelque autre, tant elle était aveuglée par la rage. « Il ne se doutait pas que c'était moi, » dit la vieille femme en montrant son poing fermé. « Et il s'en souciait fort peu, sans doute, » dit la jeune fille entre ses dents. « Mais enfin, nous nous sommes vus face à face, » dit la vieille. « Je lui ai parlé, et il m'a parlé. J'étais assise, et je le regardais, tandis qu'il suivait sa route sous une longue allée d'arbres, et à chaque pas qu'il faisait, je l'ai maudit corps et âme. « Ce qui ne l'empêchera pas de prospérer, » répliqua la fille avec dédain. « C'est vrai qu'il prospère toujours, » dit la vieille. Elle se tut, car le visage de sa fille était défiguré par la rage. Son sein se soulevait avec une telle violence qu'on eût dit qu'il allait se briser sous les émotions qui l'agitaient. Les efforts qu'elle faisait pour se contenir n'étaient pas moins terribles que sa rage. Il montrait dans tout son jour le caractère violent et dangereux de cette femme en lutte avec elle-même. Cependant, elle parvint à dompter sa fureur et demanda après un moment de silence « Est-il marié ?»« Non, chérie. Se mariera-t-il bientôt ?»« Non, pas que je sache, chérie. Mais son maître, son ami, est marié. »« Oh, nous pouvons les féliciter tous !» s'écria la vieille ivre de joie. « Ce mariage-là ne peut que nous porter bonheur. » « Rappelez-vous ce que je vous dis. » La fille la regarda comme pour lui demander une explication. « Mais vous êtes mouillée et fatiguée. Vous avez faim, vous avez soif, » dit la vieille, qui alla clopin-clopant jusqu'à l'armoire. « Et il y a peu de choses ici, bien peu de choses. et fouillant dans sa poche, elle en tira quelques sous qu'elle jeta sur la table. « Alice, chérie, n'avez-vous pas un peu d'argent ?» Le regard plein d'avidité et d'impatiente convoitise qui accompagna cette question, au moment où sa fille tirait de son sein le peu d'argent qu'elle avait reçu tout à l'heure de Miss Carker, en disait plus sur l'histoire de cette mère et de sa fille qu'Alice n'en avait laissé voir dans ses paroles. « Est-ce là tout ?» dit la mère. « Je n'en ai pas davantage, et encore je le dois à la charité. » « À la charité, ma bonne, » dit la vieille, qui se pencha avidement sur la table, pour regarder les pièces de monnaie dont elle doutait toujours tant qu'elle les voyait dans la main de sa fille. « Voyons, 6 pence et 6 font 12, et 6 font 18. Bien, il s'agit maintenant d'en tirer le meilleur parti possible. Je vais aller acheter quelque chose pour boire et manger. » Aussitôt, de ses mains tremblantes, elle s'affuble d'un vieux chapeau, plie un châle tout déchiré sur ses épaules, et cela beaucoup plus vite qu'on aurait pu s'y attendre de la part d'une femme que l'âge et la misère avaient rendue décrépite et hideuse. Elle avait toujours les yeux fixés avec la même avidité sur l'argent que sa fille tenait dans sa main. « Quel est donc le bonheur qui résultera pour nous de ce mariage, mère? Vous ne me l'avez pas dit. » « Le bonheur, répondit-elle en s'arrangeant à la hâte, d'y voir, au lieu de l'amour, l'orgueil et la haine. Le bonheur de voir le trouble et la discorde au milieu de ces fiers personnages, le bonheur d'y voir le péril, Alice. Quel péril ? J'ai vu ce que j'ai vu, je sais ce que je sais, dit la mère en ricanant. On n'a qu'à se bien tenir et à veiller au grain. Ma fille pourrait bien avoir des camarades. » Puis, voyant sa fille qui la regardait d'un air tout étonné, serrer involontairement l'argent dans sa main, elle se dépêcha de s'en saisir et ajouta d'un ton précipité « Allons, je vais aller acheter quelque chose. » Pendant qu'elle tendait la main à sa fille, celle-ci, regardant encore une fois son argent, le porta à ses lèvres avant de s'en séparer. « Eh bien, Alice, vous l'embrassez, » dit la vieille en ricanant. « C'est comme moi, j'en fais souvent autant. Oh, l'argent, c'est si bon !» Et elle serrait avec amour sous son menton ridé son unique sou couvert de vert-de-gris qu'elle tenait dans la main. « Ah oui, c'est bien bon, l'argent. Malheureusement, il n'y en a pas des masses. Si je l'ai embrassé, mère, c'est en souvenir de la personne qui me l'a donné, car c'est la première fois que cela m'arrive. « La personne qui vous l'a donné, ma chérie, » répliqua la vieille, dont les yeux ternes brillèrent d'un vif éclat quand elle se saisit de l'argent. « Eh bien, moi, je l'embrasserai aussi pour la personne qui l'a donnée, quand elle en donnera davantage. Mais il faut que je me dépêche, ma chérie, je vais revenir bientôt. Il me semble, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, que vous savez beaucoup de choses, ma mère, » dit la fille en l'accompagnant de ses regards jusqu'à la porte. « Vous êtes devenue bien savante depuis que nous nous sommes quittés. » « Si je sais bien des choses, » croissa la vieille, qui revint sur ses pas, « j'en sais plus que vous ne pensez. » J'en sais plus qu'il ne croit aussi, lui, ma chère. Mais je vais vous conter ça tout à l'heure. Je sais tout ce qui l'intéresse. » Alice sourit d'un air incrédule. « Je sais que c'est son frère, Alice, » dit la vieille, allongeant le cou avec un regard effrayant de méchanceté. « Celui-là aurait bien pu aller où vous êtes allé pour avoir volé de l'argent. Il demeure avec sa sœur de l'autre côté, par là-bas, sur la route du Nord. » « Où ?» « Sur la route du Nord, hors de Londres. Vous pourrez voir la maison si vous y tenez. » « Il n'y a pas de quoi s'en vanter, quelque gentil qu'elle soit, sa maison. »« Non, non, » s'écria la vieille, qui voyait sa fille se lever, « pas maintenant. » Et en disant cela, elle branlait la tête et riait de toutes ses forces. « Pas maintenant, c'est trop loin. C'est là-bas, près de la borne, il y a un tas de pierres. Demain, ma chérie, s'il fait beau et que vous soyez disposée, mais il faut que je me dépêche de sortir. » « Arrêtez !» dit la fille en se jetant au-devant d'elle, avec cette expression de colère qui était comme un feu dévorant. Sa sœur n'est-elle pas une grande et belle diablesse aux cheveux bruns ? La vieille femme, étonnée et terrifiée, fit signe de la tête que c'était bien elle. « En effet, je vois en elle un reflet du visage de cet homme. C'est une maison rouge, seule dans la campagne. Devant la porte, il y a un petit porche vert. » La vieille fit le même signe de tête. « C'est là que je me suis assise aujourd'hui. Rendez-moi l'argent. Alice, ma chérie, rendez-moi l'argent ou je vous frappe. » Elle ouvrit de force la main de la vieille tout en parlant et sans montrer le moindre souci de ses plaintes et de ses prières, elle reprit les vêtements qu'elle avait quittés et s'éloigna d'un pas rapide. La mère la suivit tant bien que mal, lui adressant des remontrances qui ne produisaient pas plus d'effet sur elle que sur le vent, la pluie, l'obscurité qui les enveloppait. Inflexible et armée d'une ferme résolution, indifférente à ce qui se passait autour d'elle, la fille défiait l'orage et la distance. Comme si elle n'eût été arrêtée ni par la fatigue, ni par la longueur du chemin, et elle se rendit à la maison où elle avait été secourue. Après un quart d'heure de marche, la vieille, épuisée et hors d'haleine, se hasarda à la retenir par ses vêtements. Mais elle n'osa rien de plus, et elles marchèrent en silence à travers la pluie et l'obscurité. Si la mère, de temps en temps, faisait entendre une plainte, elle s'arrêtait court, de peur que sa fille ne la repoussât pour marcher seule. Quant à la fille, elle était muette. Il était environ 1 heure du matin quand elles eurent laissé derrière elles les rues régulières et qu'elles entrèrent dans le chemin désert où la maison était située. La ville s'apercevait au loin lugubre et sombre. Un vent noir mugissait dans la plaine découverte. Tout autour, ce n'était que ténèbres, solitude et morne silence. « Cette place me convient, » dit la fille, en s'arrêtant pour regarder en arrière. « J'y avais déjà pensé aujourd'hui, quand je m'y suis arrêtée. » « Alice, ma chérie, » s'écria la mère en la tirant doucement par sa robe. « Alice, qu'est-ce, ma mère ? Ne rendez pas l'argent, ma chérie. Oh non, je vous en prie, nous ne le pouvons pas. Il faut que nous soupions, chérie. L'argent est de l'argent, peu importe la main qu'il donne. Dites-lui tout ce que vous voudrez, mais gardez l'argent. » « Tenez, » dit la fille pour toute réponse, « voici la maison que je veux dire. Est-ce bien celle dont vous me parliez ?» La vieille fit un signe affirmatif. Quelques pas de plus et toutes deux se trouvèrent sur le seuil de la porte. Il y avait de la lumière et du feu dans la chambre où Alice s'était assise pour faire sécher ses vêtements. Quand elle frappa à la porte, John Carker sortit tout surpris d'une telle visite à 1 heure aussi avancée. Il demanda à Alice ce qu'elle voulait. « Je veux votre sœur, la femme qui m'a donné de l'argent aujourd'hui. » Comme elle avait élevé la voix, Henriette parut. « Oh, dit Alice, vous voilà, vous souvenez-vous de moi ?»« Oui, répondit-elle avec surprise. » Le visage qui s'était humilié devant elle auparavant avait alors une expression terrible de haine et de défi. La main qui avait doucement touché son bras semblait la menacer et s'apprêtait à l'étrangler. Henriette, à cette vue, se rapprocha de son frère comme pour y chercher un refuge. « Dire que je vous ai parlé sans vous reconnaître, dire que j'étais près de vous et que je n'ai pas senti le sang qui coulait dans vos veines au battement de mon cœur, » dit Alice avec un geste de menace. « Que voulez-vous dire? Que vous ai-je fait ?»« Ce que vous m'avez fait, » reprit Alice. « Vous m'avez fait asseoir à votre foyer, vous m'avez donné de la nourriture et de l'argent, vous m'avez témoigné de la compassion. « Vous dont je maudis le nom !» La vieille femme, avec une malveillance qui rendait sa laideur vraiment terrible, étendit sa main décharnée vers le frère et la sœur comme pour confirmer les paroles de sa fille. Mais en même temps, elle tirait toujours la robe d'Alice, la suppliant de garder l'argent. « Si j'ai versé une larme sur votre main, que cette larme la brûle. Si j'ai prononcé une parole de douceur à vos oreilles, puisse cette parole vous rendre sourde à jamais. » Si je vous ai touché de mes lèvres, puisse ce baiser vous donner la mort. Malédiction sur la maison qui m'a offert un abri. Que la douleur et la honte vous accablent. Que tout ce qui vous appartient soit détruit, ruiné de fond en comble. En prononçant ces paroles, elle jeta l'argent sur le carreau et le foula aux pieds. Je ne le ramasserai pas quand j'en verrai joncher le chemin qui devrait me conduire au ciel. Plût à Dieu que ce pied ensanglanté qui m'a fait entrer ici fût tombé de pourriture avant de m'amener chez vous. » Henriette, pâle et tremblante, arrêta son frère et la laissa continuer sans l'interrompre. « Fallait-il que je fusse l'objet de votre pitié et de votre pardon, de vous ou des vôtres, le premier jour de mon retour ? Fallait-il que vous fissiez la bonne dame pour moi ? Je vous remercierai au lit de mort. Je prierai pour vous, et pour toute votre race, vous pouvez y compter. » Elle fit de la main un geste d'une énergie farouche. Elle semblait arroser de sa haine le seuil de cette maison et vouer à la ruine ce qu'elle avait sous les yeux. Puis elle leva ses regards vers le ciel sombre et disparut au milieu des ténèbres. La mère, qui l'avait tiré maintes et maintes fois par sa robe, avait toujours les yeux, des yeux avides, fixés sur les sous dispersés dans la chambre. Tout son être semblait concentré sur ce trésor évanoui. Elle voulait rôder encore autour de la maison, replonger dans l'obscurité, pour tâtonner dans la boue si elle n'en retrouverait pas quelques pièces. Mais sa fille l'entraîna, et les deux femmes revinrent droit à leur demeure. La vieille pleurait et se lamentait en chemin sur la perte qu'elle venait de faire. Dans son humeur chagrine, elle reprochait aussi ouvertement qu'elle l'osait à sa jolie fille d'avoir manqué à ses devoirs en la privant de son souper dès le premier soir de leur réunion. Elle alla donc se coucher presque à jeun, car elle n'avait chez elle que de mauvaises croûtes de pain qu'elle grignotait encore tout en mâchonnant et en marmottant, accroupie devant les cendres chaudes, longtemps après que sa fille, oublieuse de tous ses devoirs, se fût endormie. Cette misérable mère et cette misérable fille n'étaient-elles pas en miniature, dans leur sphère dégradée, le portrait véritable de certains vices qu'on retrouve dans des classes plus élevées? Dans cette machine ronde, composée de 1000 cercles concentriques, serait-il vrai qu'après nous être donné bien du mal à le visiter de haut en bas, nous en sommes réduits, au bout du compte, à reconnaître que les deux extrêmes se touchent et qu'à la fin du voyage, nous nous retrouvons au point de départ. Sauf la qualité et la richesse de l'étoffe qui les distingue, ne pourrait-on pas trouver chez les gens comme il faut des échantillons du même tissu? Parlez, Edith Dombey, et vous, Cléopâtre, la meilleure des mères, qu'en pensez-vous?
Chapitre 14. L'heureux couple. La tâche que la maison de M. Dombey faisait dans la rue est effacée. Maintenant, si son hôtel se distingue des autres bâtiments, c'est seulement par sa splendeur incomparable, du haut de laquelle il les domine fièrement. Il y a un proverbe qui dit « Il n'est pas de petit chez soi ». Si le contraire est vrai, et qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de trop grand chez soi, l'hôtel de M. Dombey était le plus bel hôtel qu'on pût élever à la gloire des dieux pénates. Ce soir-là, les lumières étincellent aux fenêtres. L'éclat écarlate des charbons ardents de la cheminée se reflète sur les tentures et sur les tapis moelleux. On va servir le dîner. La table est richement garnie, et pourtant, il n'y a en tout que 4 convives. Le buffet est encombré de vaisselle. C'est la première fois que la maison a été disposée pour l'habiter depuis les derniers changements. On attend le recouple d'un moment à l'autre. Après la matinée du jour de noces, cette soirée du retour est l'époque qui éveille le plus l'intérêt et la curiosité de toute la maison. Madame Perch est dans la cuisine en train de prendre son thé. Elle a fait sa tournée dans la maison. Elle a évalué le prix des soies, des damas, à tant le mètre. Pour exprimer son admiration et son ébahissement, elle a épuisé, et au-delà, toutes les interjections du dictionnaire. Le contremaître du tapissier, qui a laissé sous une chaise de la pièce d'entrée son chapeau, et dedans son mouchoir de poche, tous deux exhalant un vigoureux parfum d'encaustique, donne un dernier coup d'œil dans la maison. Il regarde en haut les corniches, il regarde en bas les tapis. Parfois, saisi d'un secret ravissement, il tire un mètre de sa poche pour se donner un avant-goût de ce que coûteront ces décorations somptueuses, avec un sentiment impossible à décrire. La cuisinière est dans toute sa verve. Elle ne demande pas mieux que d'avoir beaucoup de monde, car elle parierait bien 10 sous qu'à présent il va y avoir du monde à traiter. L'impossible. Quel bonheur, elle qui aime tant l'activité. D'ailleurs, elle a toujours été comme cela dès son enfance, je ne sais pas si vous le savez. Cette opinion qu'elle énonce sur ses qualités paraît arracher de la poitrine de Madame Patch un soupir approbateur. Tout ce que la bonne espère, c'est qu'ils seront heureux. Mais, se dit-elle à elle-même, le mariage n'est qu'une loterie, et plus elle y pense, plus elle sent combien il y a d'indépendance et de tranquillité dans le célibat. Tollinson est taciturne et sombre. Ce qu'il voudrait, c'est la guerre avec l'étranger. À bas la France! Il faut dire qu'à ses yeux, tout étranger est un Français, ou doit l'être, suivant toutes les lois de la nature. Toutes ces 40 fois qu'on entend un bruit de voiture, on s'interrompt, quoi qu'on dise, et on écoute. Souvent, dans un élan général, on crie « Les voilà !» Mais ce ne sont pas encore eux. La cuisinière pleure sur son dîner qu'on a déjà rapporté 2 fois. Le contremaître du tapissier continue toujours, sans être troublé dans sa rêverie bienheureuse, son dernier coup d'œil dans l'appartement.
Florence est prête à recevoir son père et sa nouvelle maman. Toutes les émotions qui font palpiter son cœur sont-ce des sentiments de plaisir ou de peine? Elle n'en sait rien. Mais ses joues se colorent, ses yeux brillent. On dit dans la cuisine tout bas, parce que c'est toujours tout bas qu'on parle de Florence, quand on en parle, on dit à la cuisine « Comme Florence est belle ce soir! Comme elle a grandi, la pauvre enfant !» Il se fait un moment de silence. La cuisinière, comprenant en sa qualité de présidente qu'on attend son opinion, s'étonne que... elle n'achève pas. La bonne s'étonne aussi, ainsi que Madame Patch, qui jouit de l'heureuse faculté de s'étonner quand les autres s'étonnent, sans savoir au juste pourquoi elle s'étonne. Tollinson, s'apercevant qu'il est temps de calmer l'agitation de ces dames et de la ramener à sa température, dit « Qui vivra, verra ». Il souhaite seulement que tout tourne bien. La cuisinière fait entendre un petit soupir en disant « C'est en vérité un bien singulier monde que le nôtre ». Quand cette phrase a fait le tour de la table, elle ajoute d'un ton de conviction « Après tout, la position de Mademoiselle Florence ne peut toujours pas perdre au change, Tom. » Tollinson, qui vient de préparer une réponse d'une portée effrayante, s'écrie « Vraiment ?» Mais il comprend qu'un simple mortel ne doit pas pousser plus loin les prédictions et qu'il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Il garde le silence. Madame Stewton s'est mise en mesure pour recevoir sa chère fille et son cher gendre à bras ouverts. Dans ce but, elle a endossé un costume tout à fait juvénile, une robe à manches courtes. Pour le moment, pourtant, ses charmes un peu mûrs fleurissent à l'ombre du magnifique appartement qui lui est destiné. Elle n'en est pas encore sortie depuis qu'elle en a pris possession il y a quelques heures. Elle commence à faire la moue en voyant que le dîner attend. La femme de chambre de Madame Stewton, qui devrait être un squelette pour bien faire, mais qui est au contraire une bonne gaillarde, montre l'humeur la plus aimable. Elle pense que ses gages ne manqueront plus à présent de lui être payés régulièrement chaque trimestre, sans compter qu'elle sera mieux logée et mieux nourrie. Où donc est-il cet heureux couple qui tient toute cette belle maison dans l'attente? Est-ce que par hasard la vapeur, le vent, la marée, les chevaux, la nature tout entière s'arrêtent à contempler un si grand bonheur? Sont-ils entravés dans leur marche triomphale par un essaim d'amour et de grâce qui viennent folâtrer autour de leur tête? L'heureux sentier qu'ils suivent est-il tellement jonché de fleurs qu'ils ne puissent avancer qu'entourés de toutes parts de roses sans épines et d'églantiers odorants? Enfin, les voilà. On entend un bruit de roues, le bruit devient plus distinct, une voiture s'arrête à la porte. L'odieux étranger a frappé un coup de tonnerre avant que M. Tollinson et la société, qui se précipitent, aient eu le temps d'ouvrir la porte. M. Dombey et la mariée descendent, M. Dombey donne le bras à sa femme. « Ah, ma tendre Edith, et vous, mon cher Dombey ?» s'écrie une voix émue sur l'escalier. Puis les manches courtes s'enlacent autour de leur couple et embrassent les époux l'un après l'autre. Florence aussi est descendue jusqu'au vestibule, mais elle n'ose pas avancer. Elle attend avec timidité que les transports d'une personne plus chère se soient calmés. Cependant, les yeux d'Edith la cherchent. Edith, laissant un léger baiser sur la joue de sa tendre mère, s'élance du côté de Florence et l'embrasse. « Comment vous portez-vous, Florence ?» dit M. Dombey en lui tendant la main. Florence, toute tremblante, porte cette main à ses lèvres et au même moment rencontre son regard. Dans ce regard, il y a une froideur qui la tenait à distance, et cependant elle crut y voir plus d'intérêt qu'il ne lui en avait jamais montré. À sa vue, M. Dombey témoigna une légère surprise, mais ce n'était pas une surprise désagréable. Elle n'osa plus lever les yeux, mais elle sentait qu'il la regardait encore d'une manière qui ne lui était pas défavorable. En ce moment, un frémissement de plaisir traversa tout son être à l'idée, bien vague encore pourtant, que sa maman, cette maman si belle, pourrait l'aider à conquérir l'affection de son père. « Vous ne serez pas longtemps à vous habiller, je présume, Madame Dombey. Je suis prête à l'instant. Conserve le dîner dans un quart d'heure. » Là-dessus, M. Dombey se dirigea de son pas majestueux vers son cabinet de toilette et Madame Dombey monta à sa chambre. Madame Stewton et Florence entrèrent dans le salon. Là, cette excellente mère crut de son devoir de répandre quelques larmes, émotion bien naturelle en présence du bonheur de sa fille. Elle essuyait encore ses yeux délicatement avec son mouchoir de dentelle lorsque son gendre parut. « Eh bien, mon cher Dombey, comment avez-vous trouvé Paris, la plus délicieuse des villes ?» En lui adressant cette question, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour maîtriser son émotion. « Il y faisait froid, » reprit M. Dombey. « Gai comme toujours, cela va sans dire, » fit Mme Skewton. « Pas précisément. Je l'ai trouvé triste. » « Allons donc, mon cher Dombey, » fit-elle de son petit ton moqueur. « Que dites-vous là ?»«
Voilà l'impression qu'il m'a faite, madame, » répondit M. Dombey avec une politesse pleine de gravité. « Je crois que Mme Dombey l'a trouvé triste aussi. Elle me l'a dit deux ou trois fois. »
« Eh bien, vilaine, qu'est-ce que j'entends ?» s'écria Mme Skewton d'un ton de raillerie adressé à sa chère enfant qui entrait. « Quelles heureuses hérésies vous vous êtes permises sur le compte de Paris !»
Edith leva ses sourcils d'un air fatigué. Elle passa devant les portes toutes grandes ouvertes qui laissaient voir les appartements dans leur nouvelle splendeur. Mais elle se contenta d'y jeter un simple coup d'œil et s'assit à côté de Florence.
« Mon cher Dombey, » dit Mme Skewton, « n'est-ce pas charmant de voir avec quel art on a mis à exécution les idées que nous avions données ? En vérité, ce n'est plus une maison, c'est un palais. »
« En effet, » dit M. Dombey, en promenant ses regards autour de lui, « c'est très beau. J'avais donné l'ordre de ne pas regarder à la dépense, et tout ce que l'argent pouvait faire a été fait, ce me semble. »«
Et l'argent peut tout, mon cher Dombey, » dit Cléopâtre.
« Il est bien puissant, » répondit M. Dombey, tournant vers sa femme son regard majestueux, sans lui adresser une parole. Puis, après un moment de silence, il lui dit d'un ton très distinct, « J'espère, Madame Dombey, que ces changements ont votre approbation. »«
Ils sont aussi beaux qu'ils peuvent être, » reprit Edith avec une insouciance hautaine.
« Cela devait être, et je n'en suis pas surprise. » On lisait toujours sur le visage orgueilleux de cette femme une expression de mépris qui en semblait inséparable. Mais quand on faisait appel à son admiration, à son respect ou à sa considération pour la richesse de M. Dombey, peu importe sur quel objet insignifiant ou banal, ce mépris avait toujours un accent nouveau, où il semblait qu'elle mît toute l'énergie dédaigneuse dont elle était capable. Si M. Dombey, enveloppé dans sa propre grandeur, n'y avait pas fait attention, ce n'était toujours pas faute d'avoir eu bien des fois l'occasion d'y voir clair. En ce moment, par exemple, le regard que cet œil noir lui lança, après avoir passé rapidement et d'un air de mépris sur la splendeur qui le rendait si fier, aurait dû suffire pour ne plus lui laisser aucun doute. Il aurait pu lire dans ses yeux que sa fortune, fût-elle mille fois plus considérable, ne lui ferait jamais obtenir un regard affectueux de cette femme orgueilleuse qui lui était unie, mais dont l'âme se soulevait tout entière contre lui. Il aurait pu lire dans ses yeux qu'elle méprisait sa fortune, même pour l'influence sordide et vénale qu'elle avait eue sur elle, tout en réclamant cette fortune comme son droit, son marché, comme la récompense basse et indigne de ce qu'elle était devenue sa femme. Il aurait pu lire dans ce regard que, si elle tendait la joue au cou de sa honte volontaire et de son propre mépris, l'allusion la plus innocente de M. Dombey à la puissance de ses richesses l'humiliait plus encore, la faisait tomber plus bas à ses propres yeux et mettait le comble à son ignominie. Mais le dîner fut annoncé et M. Dombey offrit son bras à Cléopâtre. Edith et Florence les suivirent. Elle passa devant la vaisselle d'or et d'argent étalée sur le buffet, comme elle aurait passé près d'un tas de boue. Et sans daigner jeter un seul regard sur tout le luxe qui l'entourait, elle s'assit pour la première fois à sa table, muette, immobile comme une statue. M. Dombey, qui de son côté ressemblait naturellement assez à une statue, n'était pas autrement mécontent de trouver dans cette femme, si belle, cette froideur calme et fière. Comme ses manières n'en étaient pas moins élégantes ni moins gracieuses, c'était dans sa tenue un mérite de plus en harmonie avec son propre caractère. Il présida le repas avec sa dignité habituelle. Mais tout à fait incapable par sa nature de donner à sa femme la vivacité et l'entrain qui lui manquaient, il fit les honneurs de la table avec une satisfaction peu animée. Quoi qu'il en soit, le dîner d'installation, sans avoir eu à la cuisine un grand succès ou sans avoir donné beaucoup d'espérance pour l'avenir, ne laissa rien à désirer sous le rapport de la politesse, des convenances et de la distinction. Il n'avait d'autre tort que d'être à la glace. Aussitôt après le thé, Mme Skewton alla se coucher.
Elle affectait d'être fatiguée d'émotion et toute hors d'elle-même, tant elle avait eu de joie du retour de sa chère enfant unie à l'homme de son cœur. Mais il est probable qu'elle ne trouvait pas fort gaie cette réunion de famille, car depuis une heure déjà, elle bâillait derrière son éventail. Edith se retira aussi, sans dire un mot, et ne revint plus. Si bien que Florence, qui était montée à sa chambre pour caresser un peu Diogène, en rentrant dans le salon avec son petit panier à ouvrage, ne trouva plus que son père qui se promenait de long en large au milieu d'une lugubre magnificence. « Pardon, mon père, dois-je me retirer ?» dit Florence, d'une voix tremblante, en s'arrêtant à la porte. « Non, répondit M. Dombey, en tournant seulement la tête. « Vous pouvez aller et venir comme il vous plaira, Florence. Cette pièce n'est pas mon cabinet. » Florence entra et s'assit pour travailler devant une petite table éloignée. C'était la première fois de sa vie qu'elle se trouvait seule avec son père, qu'elle lui tenait compagnie, oui, la première fois depuis son enfance. Elle, sa compagne naturelle, son unique enfant, qui, dans sa vie solitaire et dans sa douleur, avait connu toutes les angoisses d'un cœur ulcéré. Elle qui, voyant son amour repoussé, n'avait jamais manqué le soir de prier Dieu pour lui, et tout en larmes, d'appeler sur son père les bénédictions que le ciel ne pouvait pas exaucer. Elle, qui avait désiré mourir jeune pour mourir dans ses bras, elle qui, en retour de l'abandon, de la froideur et de l'indifférence qu'il avait pour elle, lui avait voué un amour inaltérable, l'excusant, le défendant comme son bon ange. Elle tremblait et ne voyait plus autour d'elle. Son père, en se promenant dans la chambre, lui semblait augmenter de taille et de volume quand il se rapprochait d'elle. Tantôt il lui apparaissait comme dans un nuage, et c'est à peine si elle pouvait le reconnaître. Tantôt elle le voyait bien distinctement et tel qu'il était. Puis elle se croyait le jouet d'un rêve qui durait déjà, depuis bien des années, toujours le même. Elle se sentait attirée vers lui et reculait à son approche. Émotion contre nature pour une enfant, si pure, si innocente. Mais combien plus dénaturée la main qui avait si cruellement labouré son cœur pour y jeter les germes d'une telle émotion. Florence, ne voulant ni l'affliger ni l'offenser par sa douleur, se contenait et travaillait en silence. Après s'être promené pendant quelque temps dans la chambre, il s'arrêta, s'assit sur un fauteuil dans un coin obscur, et ayant recouvert sa tête de son mouchoir, il se prépara à dormir. Florence était heureuse d'être là à le veiller. De temps en temps, elle tournait les yeux de son côté, et quand elle baissait son visage sur sa broderie, son cœur n'en restait pas moins avec lui. Elle éprouvait un mélange de peine et de plaisir à penser qu'il pouvait dormir pendant qu'elle était près de lui, et que la présence de sa fille, depuis si longtemps oubliée, depuis si longtemps étrangère, ne troublait pas du moins son sommeil. Qu'aurait-elle dit si elle avait su que son père la regardait fixement, que ce voile posé sur sa figure laissait, soit par un effet du hasard, soit par calcul, ses yeux à découvert, et qu'il ne la perdait pas de vue un instant. Si elle avait su que ses yeux expressifs, lorsqu'il se tournait vers lui dans ce coin obscur, ses yeux plus tendres et plus éloquents, qu'il accusait plus énergiquement dans leur muet langage que tous les orateurs du monde, avaient rencontré ceux de son père sans qu'elle s'en doutât. Si elle avait su qu'il respirait plus librement, quand elle baissait sa tête sur son ouvrage, tout en continuant à regarder avec la même attention son front si blanc, ses cheveux retombant en boucle sur ses joues et ses doigts si agiles, et trouvait un tel charme dans cette contemplation secrète qu'il ne pouvait détacher ses regards de sa fille. Quelles pouvaient être les pensées de ce père? Sous l'empire de quelles émotions dirigeait-il secrètement son regard sur sa fille qu'il connaissait si peu? Lisait-il sur ce visage si calme, dans ses yeux si doux, quelques reproches contre sa conduite? Commençait-il enfin à tenir compte des droits de Florence à son affection? Ces droits qu'il avait si longtemps méconnus le touchaient-ils au cœur? Réveillait-il en lui quelques remords de sa cruelle injustice? Il y a dans la vie des hommes les plus sévères et les plus durs des moments d'attendrissement, quoiqu'ils tiennent bien cachés leurs émotions. La vue de sa fille dans toute sa beauté, de sa fille devenue femme, à son insu, pouvait bien avoir touché le cœur de cet homme si orgueilleux. Peut-être avait-il pensé qu'il avait eu le bonheur sous sa main, que le bon génie de son foyer domestique s'était souvent agenouillé devant lui, sans qu'il eût daigné déroger à sa grandeur en pesée pour abaisser vers elle un regard. que sa triste arrogance avait tout gâté, tout perdu. Malgré lui, peut-être, il avait lu dans ses yeux, dont l'éloquence était si simple et pourtant si claire, ces mots touchants. « Au nom des lits funèbres près desquels j'ai prié, au nom de l'enfance malheureuse que j'ai subie, au nom de notre rencontre dans cette triste maison au milieu de la nuit, au nom des plaintes que mon cœur, dans son angoisse, a laissé échapper, mon père, je vous en prie, tournez-vous vers moi, et venez chercher un refuge dans mon amour avant qu'il soit trop tard. » Peut-être, au contraire, était-il absorbé dans des pensées moins honorables et moins élevées. Peut-être se disait-il qu'à présent que de nouveaux liens avaient remplacé le fils qu'il avait perdu, il pouvait pardonner à sa fille de l'avoir supplanté dans son affection. C'était aussi quelque chose de penser que Florence allait être un ornement de plus pour sa maison. Quoi qu'il en soit, plus il la regardait, plus il s'adoucissait à son égard. Plus il la regardait, plus il se plaisait à la confondre avec l'enfant qu'il avait aimé. Son esprit ne pouvait pas les séparer. Un moment même, pendant qu'il la considérait, elle lui apparut sous un jour plus clair et plus brillant. Ce n'était plus sa rivale, penchée sur l'oreille de cet enfant, pensée impie d'un père dénaturé. C'était le bon génie de sa maison qui avait veillé sur lui-même lorsqu'il était agenouillé au pied de son petit lit. Il se sentit disposé à lui parler et à l'appeler. Ces mots « Florence, venez ici » naissaient déjà sur ses lèvres, mais c'étaient des mots si étranges pour lui qu'il ne répondait point à son appel et s'arrêtait étonné en chemin. Il s'arrêta lui-même devant un bruit de pas qui se fit entendre dans l'escalier. C'était sa femme. Elle avait quitté sa robe du dîner pour prendre un peignoir. Ses cheveux flottaient librement sur ses épaules, mais ce ne fut point là le changement qui le fit tressaillir. « Florence, ma chérie, dit-elle, je vous ai cherché partout. » Et s'asseyant à côté de Florence, elle se pencha et lui baisa la main. Il pouvait à peine reconnaître sa femme. Elle était si changée. Ce n'était pas seulement son sourire qui était nouveau pour lui, bien qu'il ne l'eût jamais vu, mais ses manières, son ton de voix, l'éclat de ses yeux, l'intérêt, la confiance, le désir de plaire. Ce n'était pas Edith. Doucement, chère maman, papa dort. C'était bien Edith cette fois quand elle tourna ses regards du côté où il était assis. Il la reconnut aisément à l'air de son visage. « Je n'espérais guère vous trouver ici, Florence. » Comme en un instant sa physionomie avait changé encore pour prendre une expression plus douce. « Je suis sorti de bonne heure, poursuivit Edith, afin d'aller en haut causer avec vous. Mais en entrant dans votre chambre, je me suis aperçu que mon cher oiseau s'était envolé et je suis resté à attendre son retour. Et Florence eût été son oiseau qu'elle ne l'aurait pas serré plus tendrement ni plus doucement contre son cœur. » « Venez, chérie. Papa ne sera pas surpris de ne pas me trouver ici à son réveil, » dit Florence en hésitant. « Qu'en pensez-vous, Florence ? » dit Edith en la regardant en face. Florence baissa la tête, se leva et prit son panier à ouvrage. Edith posa sa main sur son bras. Elles sortirent du salon comme deux sœurs. Monsieur Dombey la suivit des yeux jusqu'à la porte et trouva que le pas même d'Edith n'était plus le même. Il resta si longtemps dans son coin obscur que l'horloge de l'église sonna trois fois l'heure avant qu'il sortît. Tout ce temps, ses yeux restèrent fixés sur la place où Florence avait été assise. La chambre devint plus obscure car les lumières baissaient et s'éteignaient enfin. Mais l'ombre de la nuit n'était pas plus épaisse que celle qui vint obscurcir son front. Florence et Edith, assises devant le feu dans la chambre éloignée où le petit Paul était mort, causèrent ensemble pendant longtemps. Diogène, qui était de la partie, avait d'abord refusé l'entrée de la chambre à Edith, et même, malgré l'intervention de sa maîtresse, il n'y avait consenti qu'en grognant. Mais il sortit peu à peu de l'antichambre, où il s'était retiré comme dans un fort, et parut comprendre qu'avec les meilleures intentions du monde, il avait commis une de ces erreurs auxquelles sont exposés les chiens les mieux élevés. En signe de réconciliation, il vint se placer entre elles deux, au beau milieu de la cheminée, et s'étendit tout haletant devant le feu, tirant la langue de l'air le plus niais et prêtant l'oreille à la conversation. Elle roula d'abord sur les lectures de Florence, ses occupations favorites, et la manière dont elle avait passé le temps depuis le mariage. En dernier lieu, elles abordèrent un sujet d'un bien vif intérêt pour Florence, qui dit, les larmes aux yeux, « Oh, maman, j'ai eu un grand chagrin depuis ce jour-là. »«
Vous, un grand chagrin, Florence ?»«
Oui, le pauvre Walter est noyé. »
Florence se couvrit le visage de ses mains et pleura de tout son cœur.
Ses larmes n'en coulaient pas avec moins d'abondance chaque fois qu'elle pensait à lui ou qu'elle en parlait.
« Mais dites-moi, chérie, fit Edith en la caressant, qui était Walter? Que vous était-il ? »
« Il était mon frère, maman. Après la mort de Paul, nous nous sommes dit que nous serions frères et sœurs. Je le connaissais depuis longtemps, depuis mon enfance. Il connaissait Paul aussi, qui avait beaucoup d'amitié pour lui. Paul a dit, presque au moment de mourir, « Prenez soin de Walter, cher papa, je l'aimais beaucoup. » On était allé chercher Walter pour le voir, et il était là, dans cette chambre.
« Et a-t-il pris soin de Walter ?» demanda Edith d'un ton grave.
« Papa, il l'a fait partir aux colonies avec un emploi. C'est en y allant qu'il s'est noyé dans un naufrage pendant la traversée, » dit Florence en sanglotant.
« Votre père sait-il qu'il est mort ?» demanda Edith.
« Je l'ignore, maman. Je n'ai aucun moyen de le savoir. »
« Chère maman, s'écria Florence en se jetant dans ses bras et cachant son visage sur son sein, je sais que vous vous êtes aperçue.
Chut, arrêtez, Florence. » Edith était si pâle et parlait d'un ton si sérieux que Florence se serait tue lors même qu'Edith ne lui aurait pas posé le doigt sur la bouche.
« Dites-moi d'abord l'histoire de Walter, dites-la-moi tout entière. »
Florence raconta tout en détail. Elle n'omit pas même l'amitié de M. Toots, dont elle ne pouvait parler au milieu de ses larmes sans sourire, quoiqu'elle lui fût sincèrement reconnaissante. Quand elle eut terminé son récit, que sa mère avait écouté avec la plus grande attention, en tenant sa main dans la sienne, Edith, après un moment de silence, lui dit « De quoi pensez-vous que je me sois aperçue, Florence ?»«
Vous vous êtes aperçue que je ne suis pas, » et Florence cacha encore sa figure dans le sein d'Edith, « que je ne suis pas sa fille bien-aimée. » Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais su que faire pour le devenir. Je n'ai pas su comment m'y prendre, et je n'avais personne pour m'en instruire.
Oh, apprenez-moi comment je pourrais devenir plus cher à papa. Apprenez-le-moi, vous qui le savez si bien. »
Et, se serrant plus étroitement contre elle, Florence prononça quelques mots de reconnaissance et de tendresse. Elle avait dit son triste secret, et elle pleura longtemps. Mais ses larmes n'étaient pas aussi amères que par le passé. Elle étreignait dans ses bras sa nouvelle mère. Pâle comme la mort, Edith cherchait à donner à son orgueilleuse beauté un calme qu'on eût pris pour celui de la tombe. Puis elle regarda la jeune fille qui pleurait et l'embrassa. Bientôt elle se dégagea peu à peu de son étreinte et, éloignant doucement Florence, elle prit l'attitude d'une statue de marbre et dit d'un son de voix qui devenait plus grave à mesure qu'elle parlait, mais sans trahir la moindre émotion,
« Florence, vous ne me connaissez pas. Que le ciel vous préserve de prendre de mes leçons. »«
Que le ciel me préserve ?» répéta Florence toute surprise.
« Oui, que le ciel me préserve de vous enseigner à aimer ou à être aimé, » dit Edith. « Si vous pouviez me l'apprendre vous-même, cela vaudrait mieux. Mais il est trop tard. »
« Vous m'êtes chère, Florence. Je ne pensais pas que quelqu'un pût me devenir aussi cher en si peu de temps. »
Florence allait parler. Elle lui fit signe de ne pas l'interrompre.
« Je serai toujours votre amie sincère. Je vous chérirai autant, sinon aussi bien que qui que ce soit au monde.
Vous pouvez vous confier à moi. Cela, je puis le dire et en répondre.
Vous pouvez vous confier à moi avec tout l'abandon même de votre cœur innocent et pur. »
Votre père aurait pu épouser des milliers de femmes meilleures que moi sous tous les rapports, Florence. Mais je défie qu'il trouvât ailleurs un cœur qui battît pour vous d'une affection plus tendre et plus fidèle.
Je le sais, chère maman, s'écria Florence. Depuis cet heureux jour, je le sais.
Cet heureux jour. Edith sembla répéter ces mots involontairement et continua.
Je n'ai guère de mérite à cela, cependant, car j'avais bien peu pensé à vous avant de vous voir.
mais laissez-moi trouver dans votre confiance et dans votre amour une récompense à laquelle je n'ai point droit. Et ce soir, Florence, le premier que je passe ici, je suis amené à un aveu que je crois utile de vous faire pour la première et la dernière fois. » Florence, sans savoir pourquoi, craignait presque de l'entendre continuer. Mais elle tint ses yeux fixés sur ce beau visage qui la regardait attentivement. « Ne cherchez jamais, dit Edith en mettant la main sur son cœur, à trouver en moi ce qui n'y est pas. Si vous le pouvez, ne vous éloignez pas de moi parce que vous ne l'y aurez pas trouvé. Peu à peu, vous me connaîtrez mieux et le temps viendra où vous me connaîtrez comme je me connais moi-même. Soyez alors pour moi aussi indulgente que vous pourrez et ne changez pas en amertume le seul doux souvenir qui me restera. » Les larmes qui mouillaient ses paupières, tandis qu'elle regardait Florence, prouvaient que son calme apparent n'était qu'un beau masque. Mais elle le garda et continua. « Oui, je me suis aperçu de ce que vous me disiez tout à l'heure. Et je sais combien c'est vrai. Mais, croyez-le, si vous ne le pouvez en ce moment, vous le croirez bientôt, il n'y a personne au monde moins capable que moi de changer ce qui est et de venir à votre secours. Ne me demandez jamais pourquoi, Florence. Qu'il ne soit plus jamais question de ceci entre nous, comme aussi ne me parlez jamais non plus de mon mari. Qu'il y ait désormais entre nous à ce sujet comme le silence de la tombe. » Elle resta muette quelques instants. Florence osait à peine respirer. Au milieu du brouillard épais qui l'environnait, la vérité se faisait jour. Elle en prévoyait toutes les funestes conséquences. Mais terrifiée et voulant douter encore, son imagination repoussait tous les instincts de sa raison. À peine Edith eut-elle cessé de parler, que son image reprit cette expression plus calme et plus douce qu'elle avait généralement quand elle se trouvait seule avec Florence. Puis elle le cacha dans ses mains, et quand elle se leva et qu'elle embrassa tendrement Florence, en lui souhaitant le bonsoir, elle s'éloigna bien vite, sans se retourner. Mais lorsque Florence fut couchée, et que la pièce ne fut plus éclairée que par la flamme du foyer, Edith rentra en disant qu'elle ne pouvait dormir, que sa chambre était trop solitaire. Elle approcha un fauteuil de la cheminée et s'assit auprès, restant à regarder les étincelles mourir une à une. Florence, elle aussi, les regarda de son lit aussi longtemps qu'elle le put. Mais le feu et le noble visage penché devant le foyer, avec sa belle chevelure qui flottait sur ses épaules et ses yeux qui reflétaient la flamme du foyer, tout devint confus, et bientôt elle s'endormit. Dans son sommeil, pourtant, Florence conservait encore une impression vague de ce qui venait de se passer. Elle rêva de la conversation qu'elle avait eue avec Edith. Elle en fut comme poursuivie, tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, mais toujours le rêve était pénible, et elle se sentait triste et effrayée. Elle croyait son père dans un désert. Elle courait sur sa trace. Elle gravissait des hauteurs prodigieuses. Elle descendait dans des mines ou des cavernes profondes. Elle portait avec elle le poids d'un secret remède qui devait l'arracher à ses horribles souffrances. Elle ne savait pas ce que c'était, ni comment le lui faire parvenir. Le but reculait toujours devant ses pas, sans qu'elle pût l'atteindre et délivrer son père. Puis elle le voyait mort, sur ce même lit, dans cette même chambre. Elle savait qu'il ne l'avait jamais aimé jusqu'à son dernier soupir, et elle se jetait sur sa froide poitrine, étouffée par ses sanglots. Puis elle apercevait un horizon lointain. Un fleuve coulait, et une voix plaintive qu'elle connaissait lui criait « Il coule, Florence, il n'a jamais cessé de couler, il vous entraîne avec lui. » Et elle le voyait de loin lui tendre les bras, tandis qu'une figure qui ressemblait à celle de Walter était à ses côtés, sereine et calme, d'une immobilité effrayante. À chaque vision nouvelle, Edith lui apparaissait toujours, allant et venant. Tantôt elle en était heureuse, tantôt elle en était chagrine, jusqu'à ce qu'enfin elles se trouvèrent seules sur le bord d'une tombe. Et Edith lui en montrant le fond, elle regarda et vit, quoi ? Une autre Edith étendue dans la fosse. Saisie de terreur, elle poussa un grand cri et s'éveilla. Une douce voix murmurait à son oreille. « Florence, chère Florence, ce n'est qu'un rêve. » Elle étendit les bras et rendit à sa nouvelle maman caresse pour caresse. Puis Edith sortit de la chambre, qu'éclairait faiblement la pâle lueur de l'aurore. Un moment, Florence se demanda si tout cela n'était qu'un rêve. Ce dont elle ne pouvait douter, c'est que le jour commençait à paraître, qu'il ne restait plus dans la cheminée que des cendres noircies, et qu'elle se trouvait toute seule. C'est ainsi que se passa la première nuit du retour de l'heureux couple au logis.